Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, bien, nous allons voir cette fois, j'ai un livre sous les yeux de Michel de Corel qui s'intitule « Dernière sonate en Périgord ». Alors, il a écrit plusieurs livres sur le Périgord. Il y a sonate, alors bien sûr sonate en Périgord, que je viens de dire, il y a symphonie Périgord en plusieurs tomes et puis nocturne en Périgord. Voilà. Alors Michel de Corel, voilà, marié, il a deux enfants. Michel de Corel, pardon, passe son enfance dans la famille familiale à Corel, devenu son nom d'écrivain, près de Reims où il est né. Après une formation d'éducateur spécialisé, il travaille successivement à Épernay, puis à Périgueux, avant d'entamer un périple de 22 ans en Outre-mer, de Saint-Martin à la Nouvelle-Calédonie, en passant par la Réunion. Il s'enrichit d'autres cultures, d'autres civilisations, amateur d'histoire et de vieilles pierres, de bon vin et de bonne cuisine, évidemment en Périgord. Alors là, il est le bienvenu pour ses agapes. Alors il continue de voyager plusieurs mois par an, sans oublier de revenir régulièrement en Périgord, où il s'est installé. Alors donc, il a ce livre, Dernière sonate en Périgord, c'est pas très réjouissant. Alors les fantômes n'aiment pas être dérangés, détestent ces humains qui viennent troubler leur monotone éternité. Alors pour se venger des importuns, ils prennent possession de leur âme. Laurie l'ignorait quand elle a accepté d'aller photographier la demande de la mairie. Le château de Courverie, elle n'imaginait pas réveiller des vieilles rancunes, des désirs mortifères, des colères enfiévrées et ces esprits qui continuent de hanter ce site historique. Alors l'ultime frisson d'une nuit que personne n'oubliera à Sauriac. Alors sur la couverture, on voit une jeune femme de dos et puis un château qui ressemble beaucoup au château d'Hautefort qui est en flammes. Alors voilà ce que nous dit ce livre. Alors bien sûr, il y a une première partie. Alors Laurie, c'est l'héroïne qui vient photographier le château à la demande de la mairie. Alors Laurie regrettait d'avoir accepté ce travail, elle avait donné son accord davantage pour un service que par souci financier. Elle vivait simplement et n'était pas dans le besoin. Léo, son compagnon décédé il y a maintenant 2 ans, avait tout prévu, lui avait laissé de quoi vivre tout à fait correctement, sans qu'elle ait besoin de se livrer à une activité rémunérée. La photo avait été d'abord un passe-temps, un hobby devenu au fil du temps, une activité semi-professionnelle qui lui assurait une raison sociale. L'argent qu'elle en tirait était en grande partie reversé sur un compte épargne au nom de Lucien, l'enfant né de cette union avec Léo. Elle avait l'usufruit de la maison de Saint-Laurent-d'Auberoche où elle résidait avec son fils. Elle n'avait donc aucune raison objective et donc financière d'aller photographier le château de Sauriac à la demande de la mairie, prélusté un livret municipal à vocation touristique. Toutefois, elle avait été flattée que le maire lui-même se déplace en personne pour la solliciter. « Outre votre talent, nous préférons faire travailler les locaux », avait-il affirmé, avec une certaine onctuosité. Il n'avait pas cru bon de préciser que le budget municipal consacré à la culture s'accommodait mal des exigences financières de certains photographes régionaux plus connus et donc plus chers. Les clichés de Laurie lui valaient une petite notoriété locale. Elle avait développé un style personnel, réussissant à imprégner des photos d'émotion personnelle forte. Elle les avait même exposées dans une galerie de Périgueux avec un certain succès. Voilà donc, voilà pour l'héroïne en quelque sorte de cette sombre histoire. Alors, on nous précise ensuite que chaque photo était agrémentée d'un court commentaire historique et architectural rédigé par Sylvie Sulot, une amie de Laurie et nounou de Lucien. Voilà, qui gardera d'ailleurs cet enfant-là. Bien sûr, son imaginaire avait fait de cet imposant monument un personnage de fiction, un ogre habillé de pierre, un monstre déguisé en château. Chaque fenêtre était un œil attentif à l'affût de ses futures victimes. Chaque porte était une bouche avide de chair fraîche et de sang. Chaque pièce était un organe distinctif prêt à dissoudre les viandes et les os de ses victimes. Chaque couloir devenait une veine, un égout menant des fluides vénéneux, vers des oubliettes et des souterrains avant d'y pourrir. Il était glouton et insatiable. Donc le décor est posé en quelque sorte, et on va découvrir petit à petit ce château. Alors Laurie, donc l'héroïne, avait fait un premier arrêt au lavoir, juste en face du château, de l'autre côté de la rivière, endroit où se retrouvaient les ados de Sorillac, pour y rêver d'un avenir brillant, d'un amour éternel, d'une amitié sans faille, et d'un monde solitaire, tout en faisant semblant d'y croire vraiment. Un endroit où l'été, les touristes prenaient la pause, avec le château en arrière-plan. Une table d'orientation récemment installée indiquait d'une flèche différents points de vue. Une plaque gravée synthétisait l'histoire du château et expliquait succinctement les différentes composantes architecturales. Il était à l'autre côté de l'Orez, trônant sur son éperon rocheux comme un gros chamatou ronronnant du plaisir d'être caressé par le regard admiratif des futurs visiteurs. Voilà pour le château qui devient presque un personnage. À l'occasion, il pouvait se transformer en un court instant en fauve sanguinaire. Aujourd'hui, il n'était qu'un vulgaire matou. Laurie éprouva un malaise, un sentiment bizarre. Ce n'est pas elle qui regardait le château, mais lui qui l'a fixé. Les volets mi-clos, paupières de bois, laissaient échapper une lueur narquoise. Les chauguettes qui dominaient la rivière devenaient le nez camu d'un visage somnolent. Laurie se ressaisit, son imaginaire l'entraînait dans ses visions oniriques, stressantes, un peu de sérieux et de raison pour ne pas se laisser aller au maléfice supposé de ce bâtiment historique. Elle saisit un appareil photo, une manière de mettre un intermédiaire concret entre elle et l'édifice. Elle voulait mettre de la distance entre ses émotions, ses souvenirs et la réalité. Et donc elle prit un maximum de clichés sans trop se soucier des angles de vue, de la lumière environnante, de son ressenti. C'était sa façon de conjurer le sort, d'apprivoiser le château en mimant l'indifférence. Alors, bien sûr, elle va continuer, elle va rentrer dans le château dont elle a les clés. Alors, ce qu'on nous dit, accompli par une ouverture photographiée, elle photographia les toits du château avec leur imposante cheminée ouvragée, les pignons décalés, les tourelles défensives, la lumière du soir adoucissait la rugosité de la pierre et l'austérité architecturale. Le corbeau, corps vivage, trônait sur une matière latoisante d'un œil gourmand. Alors, elle va bien sûr continuer cette visite. Alors, elle en profiterait pour visiter rapidement les autres pièces, imaginant déjà les photos à prendre au gré de l'émotion qu'elle lui procurerait. Elle poussa la porte du boudoir qui ouvrait sur la chambre d'un châtelaine. Avant d'actionner le commutateur électrique, elle perçut un bruit qui n'avait rien à voir avec le grincement des planchers ou le craquement des boiseries inhérents aux vieilles bâtisses. S'arrêter pour me tendre l'oreille, un oiseau égaré dans une pièce, un loir, une souris, un rat. Laurie hésitait, elle ne craignait pas spécialement ces bestioles, mais elle n'est plutôt pas fan non plus. Ça, je veux bien le croire, un gros rat, c'est pas tellement encourageant. Bon, alors, on va continuer un peu. Elle crut entendre des voix, ou plutôt des murmures, des chuchotements, l'entendit sans bouger, une plainte, un gémissement, quelque chose d'humain agitait faiblement le silence monacal de l'endroit. Un fantôme de la sorcière des vents. Elle aimait cette légende à laquelle elle ne croyait pas, mais sait-on jamais. Parfois, la réalité dépasse la fiction, notamment dans ce château. Mais de là à croire aux revenants, elle voulait en avoir le cœur net. Et si c'était des pilleurs de château? Cette simple pensée la fit frémir. Pourquoi prendre des risques inutiles en essayant de les apercevoir? Elle pouvait être dangereux s'ils ne savaient découvert. Laurie hésitait sur l'attitude à adopter, mais faire demi-tour ou tenter une approche discrète pour vérifier la nature de cette présence. Elle n'avait pas l'âme d'une héroïne, ni l'inconscience d'une étourdie, mais la curiosité fut la plus forte. C'est vrai que des fois, on ne songe pas à tout ce que l'on fait. Elle s'abstint donc d'allumer la lumière, et dans la pénombre, sur la pointe des pieds, en espérant que les semelles de caoutchouc de ses tennis ne couinent pas sur le plancher. Elle s'avança doucement, une angoisse sourde au creux de l'estomac. La porte menant à la chambre de la châtelaine était entrouverte par un trébaillement. Une lueur éclairée d'un ray, le parquet ciré. Quelques pas encore, elle pourrait jeter un coup d'œil. elle y était, retenant son souple cœur battant, se penchant la tête, ce qu'elle vit, la laissa pantoise. Ça, je veux bien croire, c'est surprenant, dans un château qui est censé être vide de tout personnel. Alors, Laurie croyait rêver, elle se frotta les yeux, se pinça pour être sûre. Dans la réalité, le lit de la châtelaine est occupé par un couple. Elle vit d'abord une jeune femme d'une vingtaine d'années. Le drap descendu jusqu'à la ceinture découvrait deux petits seins aux tétons bien roses. Elle avait les cheveux noirs, très courts. Elle se tourna sur le côté, offrant son visage à la vue de Laurie stupéfaite. Son visage était grimé, à moins que ce ne soit des tatouages. Des spirales noires lui descendaient des yeux sur les joues comme des larmes. Son front était parcouru par des lignes rouges entrecoupées de petites taches noires. Laurie pensa à des dessins maoris ou aborigènes. Sur le parquet, au bord du lit, gisait une bouteille vide de robe, bon marché, un paquet de cigarettes, un briquet, une boîte de préservatifs, des sous-vêtements féminins dispersés et des blisters de cachet. Alors, on va continuer un peu cette lecture. Alors, Laurie avait l'impression de participer à une scène surréaliste, une série télé d'épouvante. Bien, les films d'horreur faisait figure de bluette côté du délire ambiant qu'elle s'apprêtait à vivre. Alors, bien sûr, les deux personnes qui sont dans le lit vont s'apercevoir de sa présence et vont comment je pourrais dire, saisir son appareil photo, ses papiers, etc. Alors, bien des films d'horreur, comme je disais, faisaient figure de bluette à côté de ce délire ambiant qu'elle s'apprêtait à vivre. Alors, bien sûr, elle avait lu Jean-Claude Croquant de Jeanne Leroy, l'écrivain périgordaine du XIXe siècle. Elle se souvenait que les croquants menés par ce héros, voilà, je reprends la lecture, avaient incendié le château du comte de Nansac et que Lina, la fiancée, s'était donné la mort en sautant dans un gouffre. Cagnet-Carry, emporté par sa folie, ne s'identifie à son supposé ancêtre de légende et ne comprend le château de Courverie avec le château de Lerme. Morgane avec Lina et elle avec le comte de Nansac ou son épouse, auquel cas l'avenir est inquiétant puisque chargé de larmes, de cendres et de flammes. Mais que venait faire Mathilde dans ce fantasmagorie onirique? Était-ce la même qui avait fait une partie de la triste renommée du château? Voilà, donc bien sûr, Eugène de Roy est bien présent dans ce livre. Alors, tu connais l'histoire de Jacques le Croquant? Demanda-t-elle à Morgane. Non, c'est une série sur Netflix, demanda-t-elle, tout en continuant de filmer Henri. Alors Henri, c'est un personnage dépressif qui va leur causer, bien sûr, bien des soucis. Alors dépité, Laurie reporta son attention sur Henri, toujours en communication avec ses démons. Au fur et à mesure que ses délires verbaux saisissent devenaient de plus en plus brusques et mal maîtrisés, Blacco avait eu la mauvaise idée de montrer le bout du museau au un coup de pied qui le fit gronder de colère. Il bavait abondamment, en effet les cachets qu'il avait avalés, sans discernement, et il avait le même regard halluciné que son maître, avec en plus un je ne sais quoi de violence contenue. Une révolte, une jacquerie, on va tous les tuer, le château ne sera plus qu'un tas de cendres fumantes, le symbole de l'abolition des privilèges, noyer la rivale, Jeanne, la sorcière. Alors ça c'est le délire d'Henri. Alors que se passait-il dans la tête d'Henri, une reconstitution historique, un télescopage entre légendes et réalité, une projection fantasmée, un délire mythomaniaque, une psychose refoulée. Laurie s'était reculée jusqu'à la tête du lit, se rapprochant de Morgane jusqu'à la toucher. Depuis son réveil, n'avait montré aucune agressivité vis-à-vis des filles, mais l'ambiance était considérablement alourdie au fur et à mesure des divagations mentales. Alors la violence qu'il a réussi à contenir jusque-là ne demandait qu'à exploser. Voilà. Alors, bien sûr, il va falloir sortir du château. Les deux filles vont s'allier contre Harry, qui devient de plus en plus possessif, et puis qui se retranche derrière ses délires, et elles arriveront bien sûr à sortir. Mais je ne vous donne pas la fin de ce livre, donc vous pouvez lire Dernière sonate en Périgord, voilà, et c'est de Michel de Corrèle, et ça vaut d'être lu. Voilà, bien, en attendant, moi je vous souhaite une bonne semaine, et à lundi prochain. Alors, au revoir.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.